بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بارك الله فيكم pour votre présence. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et contre les tendances de l'âme. Celui que Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée dans sa justice, nul ne saurait le guider. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, le parfait dans son essence, dans ses attributs, dans ses noms et dans ses actes, qui tous oscillent entre sa pitié, sa miséricorde et sa justice. Subhanahu wa ta'ala. Puisse-t-il bénir le meilleur des hommes, Muhammad ibn Abdullah, ses frères prophètes et ses compagnons qui l'ont soutenu et tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin jusqu'à ce que la promesse d'Allah se réalise et se réalisera avec la fin du monde et la justice entre les créatures, au point que ceux qu'il a honorés seront dans une béatitude qui sera le paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Et ceux qui sont morts dans la désobéissance, soit ils leur pardonnent, soit ils auront ce qu'ils auront mérité. Donc, qu'Allah bénisse nos sœurs, et vous aussi, nos sœurs d'abord qui ont été à l'initiative, et tout bien vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dévoués pour la communauté. Allah en a voulu pour nous réunir, et n'oubliez pas que celui qui indique un bien, donc il aura la récompense, sa propre récompense et la récompense de tous ceux qui le suivront ou qui en profiteront jusqu'au jour du jugement dernier. Donc c'est elles qui sont à l'initiative de ces rencontres fraternelles qu'elles ont appelées bimestrielles, c'est-à-dire tous les deux mois, et pour donc nous permettre de partager une partie, alhamdoulilah, de la miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a déversée. Et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Ensuite, donc vous remercie pour le temps que vous avez pris pour partager, même si, alhamdoulilah, tout ce qui se dira, je pense, vous le connaissez pratiquement tout. Mais le fait de se rassembler, c'est pour rechercher avant tout la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui a promis dans la bouche de son prophète, que Dieu le bénisse, hein, qu'il n'y a pas une assemblée qui se réunit et dans laquelle on évoque le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sans que les anges les couvrent de leurs ailes, sans que la miséricorde d'Allah descende sur eux, et que Allah les cite parmi donc les gens qu'il aime, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous compte parmi donc cela. Donc le thème qui a été choisi par les sœurs, puisque les frères avaient commencé à faire un comité, c'est juste pour le réactiver, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la miséricorde qu'on doit attendre de lui. En fait, c'est tout l'islam. Vous en doutez. En réalité, la crainte d'Allah, c'est ce qui représente. On pourrait traduire ça par la taqwa, on pourrait traduire par le khawf, on pourrait traduire par le khushu, on pourrait traduire par le khashya, mais je voudrais quand même faire une distinction sémantique, puisqu'on reproche parfois aux musulmans, vous musulmans, vous avez peur d'Allah. Nous, on veut l'adorer sans avoir peur. Je pense que, comme le disait Cheikh Othaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, tu as quelqu'un de science, la différence entre le khawf, la peur, et le khashya, qui est la crainte, est basé sur la science. Et quand on parle de khashya, c'est que c'est le sentiment que l'on a, on redoute d'être puni, on redoute d'être éloigné de la miséricorde d'Allah, on redoute sa colère. Et c'est ce que nous recherchons dans la Fatiha tous les 17 fois par jour. Donc, ce qui est contraire à la peur. La peur, c'est ce sentiment que tu ne maîtrises pas et qui vient de l'appréhension que tu peux avoir pour une chose que tu ne connais pas. Ça, c'est le sens général. Bien sûr, Allah utilise les deux termes dans le Coran et les deux termes peuvent être synonymes. comme ça peut être différent. Donc, la crainte d'Allah, certains traduisent la taqwa, donc on appelle la crainte pieuse, on traduit ça comme ça, qui n'est pas l'équivalent du khawf. Moussa, alayhi salatu wa salam, quand Allah l'a éprouvé, qu'il a voulu secourir quelqu'un donc, de son clan, et que Allah a rappelé celui qui l'a saisi, et que cette personne est morte, et que quelqu'un, donc il était peureux, il avait peur plutôt, il avait peur de ce qu'on ferait de lui, parce qu'il ne sait pas. Les gens sont capables de beaucoup de choses. Et ensuite, quand quelqu'un est venu du fin fond de la ville en train de dire « Je te mets en garde », l'assemblée de Pharaon s'est réunie pour te tuer ou pour te juger. « Je te conseille pas. » Ça, c'est la peur. Et elle est naturelle. Cette peur, elle est permise, si vous voulez. Entre autres, une très belle explication que vous trouvez dans le commentaire des trois fondements du Cheikh Othaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, cette peur est naturelle, on n'est pas jugé dessus. La peur qui est interdite, c'est la peur de l'occulte, par exemple. J'ai peur que les morts viennent me chercher, j'ai peur que... et ceci va m'empêcher à adorer Allah ou va me pousser. Voilà, j'ai une maison comme une tradition malheureuse. Qu'on a dans nos sociétés, quand tu déménages avec la maison prise à crédit, voilà, quand tu aménages, il faut verser du sang. Pourquoi? Parce que comme ça, ça va te protéger contre les esprits, les djinns, etc. Bien sûr, ça, c'est formellement interdit. Il y a des peurs comme ça, mais on ne sait jamais. Donc, moi, si en rêve, je me vois en train de faire ceci, cela, donc écoute, hein. Tu vas voir la grand-mère, elle va te dire, tu égorges un poulet noir, si tu n'en trouves pas, tu prends un bleu. Donc voilà, tu vas avoir peur de tout. C'est parce que tu ne crains pas Allah. Donc la crainte, c'est le fait, c'est le sentiment qui est basé sur la connaissance. Allah seul sait qui il est, subhanahu wa ta'ala. Mais la connaissance, quand tu dis j'ai peur de mon employeur, de mon patron, il se peut qu'il te licencie. Quand tu dis j'ai peur de mon père, malheureusement on a cette mauvaise réputation, même si on peut être doux. Pourquoi? Parce qu'il peut te punir, il peut faire ceci, il peut faire cela, mais il t'aime. En te punissant, c'est pour ton bien. Donc c'est le fait de connaître, bien sûr ça c'est pour la créature, pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de comparaison, mais c'est juste pour vous faire saisir, quand on parle de crainte d'Allah, c'est la crainte d'être éloigné de lui. Quand nous disons « Hidina surat al-mustaqim, surat al-ladhina namta alayhim »« Guide-nous dans le chemin droit », le chemin de ce que tu as comblé de tes bienfaits. Donc tu as un bienfait dont tu combles les gens que tu as agréés. Donc on cherche ton agrément « Ghayril maghdoubi alayhim » non de ceux qui encourent ta colère et ni des égarés. Et donc la crainte est basée sur la connaissance. Alors que la peur est basée, je dirais, sur... rien, l'inconnu, et on se dit, bon ben, qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne sais pas, donc j'ai peur. Alors que je sais, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, qu'on verra après, inshallah, a envoyé les messagers, a envoyé, préserver le livre, pour nous dire qu'il est celui qui aime, qu'il est celui qui est l'omnipotent, qui est le miséricordieux, qui est le dur de châtiment, qui est l'omnipotent, qui est l'omniscient, etc. Donc Allah s'est fait connaître pourquoi? C'est pour qu'on le craigne. C'est pour qu'on ait l'espoir en lui et c'est pour qu'on l'aime. Donc la crainte, elle est basée sur ça. Ça fait qu'il n'y a pas d'adoration sans crainte. Mais ce n'est pas la peur. Si je ne fais pas ça, j'irai en enfer. Pourquoi? Parce qu'il faut au moins que je croie. Que l'enfer, c'est quoi? C'est un instrument que Allah a utilisé pour punir les gens qui lui ont désobéi alors qu'ils n'avaient pas à le faire. Ils ne sont ni contraints, ni ils n'ont oublié, ils l'ont fait exprès, ils ont été insouciants dans leur vie, ils ont oublié pourquoi ils ont été créés, malgré sa miséricorde d'avoir envoyé, de s'être fait connaître d'abord, subhanahu wa ta'ala, et d'avoir envoyé les meilleurs d'entre nous pour nous mettre en garde. Donc c'est sémantique, mais c'est juste c'est pour que vous compreniez, en tout cas pour qu'on réalise que la crainte est nécessaire pour l'adoration. Celui qui est orgueilleux, moi je ne crains pas Allah. Celui qui dit je ne crains pas Allah, certainement mérite ce qu'il ne le connaît pas. Pourquoi? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le seul digne d'adoration. C'est pourquoi il nous a créés. Allah est le créateur. Il se définit comme le créateur. Allahu khaliqu kulli shay. C'est Allah qui a tout créé. La création n'est pas seulement ce que tu vois. La création, c'est bien au-delà. Même ce que tu dis, les sentiments que tu as, comme le dit Ibrahim alayhi salam, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun. C'est Allah qui vous a créé et ce que vous faites. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de silence, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a rien, il n'y a pas une goutte d'eau, il n'y a pas un nuage qui bouge, il n'y a pas un regard, il n'y a pas un sommeil, il n'y a rien sans que Allah ne l'ait créé. Il n'arrive que ce qu'il veut. Donc ça c'est déjà, si tu avais conscience de ça, alhamdulillah, tu l'aimerais beaucoup et tu ferais très attention. On a demandé à Hudayfa, qu'Allah lui fasse miséricorde, on dit qu'Omar lui a demandé, qu'Allah l'agré, il lui a demandé qu'est-ce que c'est que la taqwa. On traduira aujourd'hui par la piété. Qu'est-ce que c'est? Il lui a dit, est-ce que tu n'es pas passé dans un chemin épineux? Où il y a des épines? Il dit oui. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai fait attention de ne pas me faire piquer par les épines. Il dit, voilà, c'est ça la taqwa. La crainte, c'est quoi? C'est la crainte qu'un mal ne t'arrive parce que tu as déjà été, tu sais qu'il y a un mal. Ça a été, tu as déjà été averti et donc tu prends garde de ne pas prendre le droit du voisin, le droit de la chatte, le droit de ceci, parce que Allah, tu sais que Allah est juste. C'est pas parce qu'il n'y a personne à des relations avec lui, autre que la soumission, il est transcendant, subhanahu wa ta'ala. C'est pas parce que tu es le fils de l'imam, ou tu es le père du prophète, demandé au père d'Ibrahim, ou tu es le fils du prophète, demandé au fils de Nuh, qui va te favoriser devant lui. Donc, tu sais que c'est Allah, et tu sais que rien ne pourra te sauver, si ce n'est sa miséricorde. Et sa miséricorde se mérite. Donc tu dois l'adorer. Celui qui meurt en associant quoi que ce soit à Allah, celui-là, Allah lui a interdit le paradis, comme vous le savez, versets 48 et 116 de la sourate 4. Inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit en dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Donc la crainte est basée sur ça. Certains résument la crainte pieuse dans quatre choses. On fait dire à Ali qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré. On lui fait dire que la crainte d'Allah, c'est quatre choses. C'est al-khawf min al-jalil. Donc c'est la crainte du majestueux, donc qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amal bit-tanzil, le fait d'appliquer ce qui a été révélé. C'est-à-dire Allah a conservé, alhamdulillah, ses ordres et ses interdictions dans le Coran, qu'il a préservé. Le fait de se préparer pour le jour de sa rencontre, subhanahu wa ta'ala, wal rida bil qalil, et le fait de se contenter de peu. Tout ceci, bien sûr, on le trouve, et c'est une des sagesses pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné le jeûne, comme il le dit, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à vos prédécesseurs afin que vous atteigniez la piété. Donc le moyen d'atteindre la piété, c'est de se contenter du peu qu'on a. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne remplit le ventre du fils d'Adam ou son estomac que la poussière, c'est-à-dire de quand on n'était pas dans les cercueils, donc quand on était à même le sol, on est détruit, alhamdoulilah, et ensuite, donc la poussière rentre dans le ventre, là c'est clair que tu ne vas pas dépasser ça. Quand, comme il a dit, tu lui donnes une vallée, il va avoir une seconde vallée, tu lui donnes deux vallées, il va en avoir trois, etc. Et ceux qui me connaissent me rappellent l'histoire de mon grand-père, du père de mon oncle, qu'Allah lui fasse miséricorde, et qui voulait l'impressionner en disant, tu sais, mon père, il était à l'ambassade en Côte d'Ivoire, il y a les châteaux, ils ont 23 chambres, etc., etc. Et donc, le père, inchallah, la sagesse vient souvent avec l'âge, il lui dit, ah oui, c'est bien, 23 chambres. Il dit, quand ils dorment dans une chambre, est-ce qu'ils dorment dans les 23? Il dit, non. Il dit, alors, à quoi ça leur sert? Et donc, le professeur a résumé ceci. C'est vraiment la piété ou la richesse, disaient les fils d'Israël, c'est le fait d'avoir un toit, d'avoir une monture et d'avoir de quoi manger. Ça te suffit largement. Donc le fait de se contenter de peu, ça fait partie de la croyance. Il n'y a qu'au paradis, alhamdoulilah qu'Allah nous compte parmi ceux-là, où tu n'auras pas, où tous tes besoins seront comblés. Ici, tu ne peux pas. C'est pour cela que les critères doivent être différents quand on choisit son compagnon, quand on choisit sa compagne. Il y a la piété qui est avant toute chose. Le reste, la beauté, tu trouveras plus beau, tu trouveras plus belle. La richesse, tu trouveras plus riche. Et plus tu en as, plus tu as envie d'en avoir, etc., etc. Donc le fait de commencer par le premier point, le fait de craindre Allah, c'est le fait de le connaître. J'ai dit, c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui s'est défini. Il est le Seigneur. Il est le seul Dieu digne d'adoration et il est parfait. Donc, le fait qu'il soit Seigneur, les savants le résument dans trois choses que vous connaissez. C'est lui qui a créé, c'est lui qui pourvoit à tout besoin et c'est lui qui ordonne toutes choses. Si on ne s'arrête que sur ça, c'est lui qui a créé pas seulement toi, c'est tout ce qui a existé, c'est tout ce qui existera. C'est tout ce qui va exister, Allah l'a créé. Et juste ce qui me vient en tête, c'est pour méditer. Allah dit « Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wa an-nahari la ayati li ulil albab » Il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance des jours et des nuits, de quoi méditer, de quoi faire méditer les gens qui ont un cerveau. Le prophète sallam, il a dit « La terre, celle que, sur laquelle nous vivons, et on est à un point de la terre. » La terre, comparée au premier ciel, et le premier ciel, c'est celui qui a été enjolivé. C'est-à-dire, c'est l'univers. C'est que vous voyez les étoiles, les centaines de milliers d'étoiles que Allah a créées. La terre, a dit le prophète sallam, et ce n'est pas les géophysiciens ou astrophysiciens qui vont nous dire le contraire, elle est, a dit le prophète sallam, comparable à un cerceau ou à une assiette que tu jettes dans un désert. C'est-à-dire, c'est insignifiant par rapport à l'univers. Nous sommes tous d'accord dessus. Et ça, c'est le premier ciel. Il a dit, le premier ciel par rapport au second ciel, c'est comme, exactement pareil, comme si ce que nous voyons comme ça, ce n'est rien par rapport au deuxième ciel. C'est comme si tu jetais un cerceau ou tu jetais une pièce dans un désert. Le deuxième par rapport au troisième, le troisième par rapport au quatrième jusqu'au septième. Et le septième n'est rien par rapport au coursi. Par rapport à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a désigné comme coursi, qui dit « Wasiya coursi yuhu samawati wal ard ». Son coursi, qu'on traduit, et Dieu n'a pas, rien ne semblable à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de besoin, est contraduit par le repose-pied de son trône. Le repose-pied par rapport au septième ciel, qui est immense, ne représente pas grand-chose. Le septième ciel ne représente pas grand-chose par rapport au repose-pied. Et le repose-pied, qui est différent du arche, le arche, c'est la plus grande créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah n'en a pas besoin. Et Allah existait sans qu'il n'y ait rien. Il est le premier qui n'a pas de début. Alors, le arche a été créé. Et donc, le arche par rapport au coursi et le coursi par rapport au septième, etc., jusqu'à cette terre et jusqu'à toi-même. Il n'y a pas une goutte de sang, je ne te parle pas de la composition, on va parler de la biologie. Tout ce dont tu as besoin, tu l'as. Et il n'y a pas dans une respiration, il n'y a pas dans une contraction, il n'y a pas dans un souffle, quelque chose qui ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ni dans celui de la fourmi, ni dans celui de l'homme prétentieux. Et donc on comprend mieux pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a proposé ce qu'il a proposé, et il est juste, quand il a proposé ce qu'il a proposé au ciel, à la terre, aux montagnes, qu'ils ont été effrayés, le fait de prendre la responsabilité, de l'adorer, d'avoir le libre arbitre. C'est l'homme qui l'a accepté. Quand ils ont demandé à quoi, ça nous engage, Allah dit, ça vous engage à ce que je vous laisse libre, vous reviendrez à moi et je vais vous juger. Et le ciel a repousser l'offre. Les montagnes, pareil. La terre, pareil. Il n'y a que l'homme qui est très injuste, dit Allah subhanahu wa ta'ala, et très ignorant, qui a accepté ça. Et c'est ce qui nous a amené ici. Notre Père, qu'Allah lui fasse miséricorde, a accepté, et ensuite il a désobéi à Allah, et nous sommes retrouvés ici. Donc celui qui connaît Allah, nécessairement il le craint, forcément. Ça c'est le Créateur. Et il n'a besoin de rien. Et tout a besoin de lui. Le pourvoyeur, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui pourvoit tout besoin. Tu n'as pas de sommeil, tu n'as pas de besoin où tu vas aux toilettes. Et si tu n'y vas pas, certainement tu vas mourir. Et tu as besoin qu'on t'aime. On a vu, parce que la solitude, dit le poète, ne convient qu'à Allah. Tu ne peux pas rester seul. Le simple fait, le fait qu'on te couvre tes péchés, le fait qu'on pense du bien de toi, le fait qu'on t'aime, tu en as besoin. Et tout ceci vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui pourvoit tout besoin qui existe, et nous sommes tous dans le besoin, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith Qudsi que vous connaissez. Ô mes serviteurs, djinn et hommes réunis, du premier au dernier, si vous vous retrouviez sur une partie de la terre et que chacun demande ce qu'il veut et que je donne à chacun ce qu'il espère, Cela n'amoindrira rien à ma richesse, pas plus que une aiguille, quand elle est trempée dans une mer, le volume qu'elle va déplacer, si on veut parler de la poussée d'Archimède, peu importe, en des termes modernes. Et donc ça, c'est Allah le riche. Nous sommes tous pauvres. Nous avons tous besoin d'Allah. Tous. Celui qui, qui est dans un avion et qui a un trou d'air, quand il est secoué, il pense à qui? Il pense à Allah. Il te dira même, il va se trahir, il va dire, Ya Allah, oh mon Dieu. Après, il se rappelle que, tiens, il disait qu'il n'y croyait pas. Là. Allah dit, quand un mal frôle l'homme, il sincèrement, il appelle son Seigneur. Allah dit qu'il est sincère, effectivement, tu es sincère. Quand tu sens l'âme monter, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi je trouve que ça m'est arrivé une fois, à côté de la Kaaba, je pensais que c'était fini, tellement les gens te poussent. Quand tu sens l'âme monter, à qui tu penses? À Allah. Que tu sois un orgueilleux, un prétentieux, ou que tu sois un homme pieux, une femme pieuse, c'est à Allah que tu penses, que tu le veuilles ou pas. C'est pour cela que la certitude viendra, et la traduction de la certitude, Hatta ataqa al-yaqin, adore Allah jusqu'à ce que la certitude arrive. Les savants sont unanimes, je ne parle pas des pseudo-savants, ascètes, je ne sais quoi d'autre. Nous, ils sont arrivés à la certitude, c'est jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de doute dans leur foi, non. Le professeur, c'était le plus pieux d'entre nous, c'est-à-dire qu'il connaissait le mieux son Seigneur. La certitude a été interprétée par tous les savants comme étant jusqu'à ce que tu vois en réalité que Allah seul, subhanahu wa ta'ala, est le digne d'adoration, c'est-à-dire à ta mort. La certitude, le al-yaqin ici, c'est dans le sens de la mort. Prétentieux, croyant, chacun verra la mort quand Malak al-Maut alayhi salam va venir. Soit il te passe le salam, soit il vient arracher. C'est qui sait pourquoi il a été envoyé, ton âme. Et là, certainement, tout le monde croit en Allah, mais ça ne servira pas à grand-chose. C'est comme le prophète sallam le disait, la porte de la Taouba, du repentir, est ouverte jusqu'à ce que le soleil se lève de l'Occident. C'est-à-dire, une fois que le soleil va se lever de l'Occident, il n'y a plus de repentir. Tout le monde va croire en Allah. Parce que ça va s'imposer. Quand la mort viendra, tout le monde va croire en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, celui qui a créé, c'est celui qui pourvoit. C'est celui qui gère toutes choses. Ton équilibre, quand tu vois quelqu'un qui ne peut pas se tenir, tu dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oui, mais il ne sait pas ce qui lui arrive. C'est que l'équilibre est extrêmement fragile. C'est que c'est Allah qui contrôle toutes choses. Toi, ce que tu fais, ce que les autres font, et Allah seul sait comment, quand on te dit avant, j'ai plus mes deux ménisques, Yanni, à force d'avoir fait pris beaucoup de risques, je ne vous le conseille pas, mais de toute façon, vous n'allez pas m'écouter. Sur un terrain de foot ou autre chose, on pensait que les ménisques ne servaient à rien. On va les enlever, on va les jeter. Et en réalité, je peux vous dire, mon kiné, qui n'est pas là, disait que peut-être, effectivement, que ce qu'on a pu avoir comme problème de dos, etc., peut-être que ça vient de ce déséquilibre-là. Peut-être. Il se peut que. Il n'y a rien qui ne sert à rien. Et Allah a tout créé dans la perfection. Et donc, c'est la sagesse pour laquelle. Quand tu connais Allah subhanahu wa ta'ala et qui pourvoit tous tes besoins, un ingrat c'est qui? C'est celui qui ne reconnaît pas les bienfaits. Et tout bienfait vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, est-ce que tu ne crains pas que Allah te reprenne ce qu'il t'a donné? Et la meilleure chose qu'il t'a donné, c'est la foi. L'usage que tu en fais, si tu n'es pas jaloux de cette foi, parce que tu ne sais pas ce qu'elle t'apporte. Malgré les épreuves par lesquelles Allah te fait passer pour te faire miséricorde, la foi, c'est ce qu'Allah donne aux gens qu'il aime. Et donc, Allah souvent parle du tawhid al-rububiyya, de l'unicité dans la seigneurie, pour t'amener au fait qu'il est le seul que tu dois adorer parce que tout autre que lui est faible. Tout autre que lui est pauvre. Tout autre que lui ne crée rien. Vous vous rassemblerez les hommes et les djinns, vous ne saurez pas créer une seule mouche. Et ça, c'est une réalité. Et donc, Allah souvent parle de sa seigneurie, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire celui qui crée, celui qui pourvoit tout besoin, et celui qui gère toutes choses, pour t'amener à l'adorer lui tout seul. Et tu sauras certainement que c'est lui que tu dois craindre. Tu sauras que c'est lui, subhanahu wa ta'ala, que sur lui que tu dois te reposer. Tu sauras qu'il sait tout. Tu sauras qu'il fait ce qu'il veut. Qu'il n'a besoin de rien. Il sait tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne pense pas que tu es seul, ce n'est pas parce que tu ne vois pas les anges, et Allah n'en a pas besoin. C'est pas parce que tu vois pas tes ennemis parmi les esprits, les djinns, ce n'est pas parce que c'est ci ou cela que Allah ne sait pas. Et c'est l'une des plus belles phrases que j'ai entendues sur l'omniscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui sait ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, ce qui n'a pas été, si ça avait été, ce que ce serait. Donc le fait de savoir qu'Allah sait tout, ça te fait le craindre, parce que tu ne peux rien faire qu'il ne le sache pas. Avant de t'avoir créé, il le savait. S'il ne savait pas, il ne serait pas Allah. Avant de t'avoir créé, il le savait. 50 000 ans avant qu'il ait créé les cieux et la terre, il a créé la plume, il a dit écrit, la plume dit qu'est-ce que j'écris. Allah dit écrit tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Et il a écrit. Et le prophète que Dieu le bénisse disait, la plume est levée, l'encre a séché. À la fin du hadith que vous connaissez, de Ibn Abbas, qu'Allah l'a gré ainsi que son père. Donc Allah sait tout ce qui va arriver. Allah sait ce que tu fais, ce que tu vas penser, ce que tu ne vas pas penser, ce qui va t'arriver, et il ne t'arrivera que ce que Allah subhanahu wa ta'ala dans sa sagesse, dans sa miséricorde, et dans son omnipotence a permis que ça arrive. Parce que tout ce qui arrive n'est que le meilleur qui puisse arriver. Ça, il ne faut jamais oublier. Et ça, c'est notre point, le point fondamental, que ceux qui ne connaissent pas Allah, ça leur a échappé, et qui fait leur malheur, surtout le fait de ne pas croire au destin. C'est-à-dire que ce que Allah fait, si vraiment tu crois à Allah, tu dois savoir que c'est la meilleure des choses, effectivement. Quand tu vois les choses qui arrivent que tu ne comprends pas, tu ne sais pas pourquoi. Mais Allah sait. Allah sait. Allah sait pourquoi ? Parce qu'il est sage. Il n'a rien fait pour rien. Et s'il a fait une chose, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Allah te dit, « Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. » Allah sait, vous ne savez pas. Allah sait, vous ne savez pas. Quand tu crois à Allah, subhanahu, tu sais que ça ne pouvait pas ne pas arriver. La preuve, c'est que c'est arrivé. Ça ne pouvait pas ne pas arriver. La preuve, c'est que c'est arrivé. Et je ne vous raconte pas l'histoire que vous connaissez d'Al-Khidr, l'homme vert avec Moussa, alayhi salam. Je ne vous raconte pas comment Youssouf, alayhi salam, comme le prophète l'a qualifié le meilleur des hommes, bien que lui soit le meilleur des hommes, comment il devait passer par un puits et ensuite arriver en prison injustement pour devenir ce que Allah a fait de lui, pour que les fils d'Israël se retrouvent donc en actuelle Égypte. Et bien sûr, un prophète, fils de prophète, petit-fils d'un prophète, arrière-petit-fils de l'ami de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire dans un puits? Ses frères vont comploter contre lui. Qu'est-ce qu'il va faire dans une prison? Parce qu'Allah sait et nous, on ne sait pas. Donc cette omniscience d'Allah subhanahu wa ta'ala te permet bien sûr d'accepter, et ta foi au destin te permet d'accepter ce qui arrive. De toute façon, si tu n'acceptais pas, ça ne changerait rien. Tu serais tout simplement malheureux. Ça t'est arrivé, ça t'est arrivé. Si tu n'acceptes pas, tu vas te suicider, mais c'est encore pire. Puisque le suicide est interdit dans l'islam, et ce n'est que le début du châtiment en ordre bille. Une chose que les non-musulmans ou les musulmans d'aujourd'hui ne savent pas, puisque j'ai appris en arrivant ici que des musulmans se suicident. Que ce soit avec des ceintures explosives ou je ne sais quoi d'autre, c'est un suicide. Se donner la mort est interdit dans l'islam. Pourquoi? Parce que c'est Allah, la vie est précieuse. On ne doit ni attenter à une vie, à la sienne, y compris la sienne. Ce n'est pas parce que c'est ma vie, ce n'est pas parce que c'est mes biens que je les dépense. Tout appartient à Allah. Quand tu ne connais pas Allah, certainement, tu ne peux pas le craindre parce que tu ne le connais pas. C'est en le connaissant que tu le crains. Les savants, dignes de ce nom, contemporains en particulier, ont dit que c'est un suicide. Tu mets ta ceinture d'explosif pour faire tuer les gens et je ne te parle pas du péché que tu prends. Entre celui qui se suicide, Allah lui promet, après la bouche du prophète, le châtiment dans l'enfer par ce par quoi il s'est suicidé. Et nous savons que ce n'est pas parce que tu as été déchiqueté ou tu as été mangé par un fauve que c'est fini. Ce n'est que le début. C'est l'âme qui subit le châtiment. Et ça, c'est avant l'au-delà. Ça, c'est avant, je veux dire, le jugement et l'éternité. Et donc, même ta propre âme ne t'appartient pas. Encore moins celle des autres. Attenter à une vie sans raison, les raisons étant définies, la loi du talion ou autre chose, attenter à une vie sans raison, Allah dit, c'est comme celui qui porte atteinte à une vie, c'est comme s'il avait porté sans raison, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas un sang qui coule du fils d'Adam sur terre, et Allah sait que ça coule tous les matins et tous les soirs et toute la journée à travers de l'injustice des hommes, que ce soit en Palestine, en Syrie, en Libye, n'importe où, de l'injustice. Pas un sang ne coule si ça ne remonte pas jusqu'au premier fils d'Adam qui a tué son frère. Et donc, quelqu'un qui tue une personne, un innocent en particulier, comme le dit Moussa al-Khidr, un innocent, Il prend le péché de la personne, il prend le péché d'avoir tué l'humanité entière, et qu'est-ce qu'il va dire devant Allah? S'il le connaissait, en tout cas, il ne le craint pas. Celui qui connaît Allah, nécessairement le craint. Celui qui connaît Allah, nécessairement l'aime, forcément. Parce qu'il est la source de tous les bienfaits. Et tout ce qu'il fait n'est que la meilleure des choses qui puisse arriver parce qu'il sait. Parce qu'il peut. Rien ne lui résiste. C'est pour cela que connaître les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la plus belle des sciences. Les savants insistent dessus. Pourquoi? Parce que ça parle du majestueux, subhanahu wa ta'ala. Si tu le connais nécessairement, tu l'aimes. Si tu le connais nécessairement, tu vas être craintif. Parce que ne serait-ce que si Allah ne t'aime pas, tout le monde peut t'aimer sans te servir à rien. Si tu mets Allah en colère, subhanahu wa ta'ala, bien que rien ne le touche, jalla wa ala, si tu mérites la colère d'Allah, rien ne peut te sauver. Et c'est pour cela qu'il a mis un jour du jugement derrière. La crainte va, le prophète sallam dit, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Il n'y a pas de hasard. Allah lui a donné entre autres la concision du discours. Celui qui craint Allah, celui qui croit en Allah plutôt, et au jour du jugement dernier. Parce que sachant que Allah subhanahu wa ta'ala sait tout, et qui, sachant qu'il est juste, il n'y a pas une injustice aussi petite soit-elle vis-à-vis de son père, vis-à-vis de son épouse, vis-à-vis de son époux, vis-à-vis de l'enfant, vis-à-vis du musulman, du non-musulman, vis-à-vis de la chatte, vis-à-vis de n'importe quoi qui ne sera pas jugé ce jour-là. Y compris, comme l'a dit le professeur Allah sallam, y compris deux béliers qui se sont faits, qui se sont attaqués dans ce bas monde. Ils ne seront pas récompensés par le paradis ou l'enfer, mais ils seront jugés. Parce que Allah a dit, Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharrama, fala tadhalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Je l'ai interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. Le professeur Allah m'a dit que la justice d'Allah est telle que deux béliers dans ce bas monde, un qui a des cornes, l'autre qui n'a pas de cornes, celui qui a des cornes a pris le dessus sur celui qui n'a pas de cornes, et celui qui n'a pas de cornes, au jour du jugement dernier, va demander à Allah, Ya Allah, tu m'as créé sans cornes. Celui-là, tu as donné des cornes, il en a profité pour m'attaquer. Je te demande justice. Et Allah va donner, va permettre au bélier qui n'a pas de cornes de prendre la revanche sur le bélier qui a des cornes et qui l'avait attaqué. Pauvre de nous. La femme qui ira en enfer, vous le connaissez, vous connaissez l'histoire à cause d'une chatte. Parce que c'est ma chatte. Vous qui aimez dans ce pays le chat ou la chatte, c'est très bien. Celui qui donne tant soit peu, quoi que ce soit, à un être vivant, c'est une sadaqa. Vous lui donnez un coup de pied à un chien, si tu lui donnes de l'eau, la femme, la prostituée, qui est partie au paradis à cause d'une chatte, à cause d'une chienne, vous connaissez l'histoire. Allah l'a éprouvée. Elle était dans un désert, et voilà que Allah met sur sa route un puits dans lequel elle descend et elle boit. Elle ressort de là, et Allah l'éprouve. Elle voit une chienne avec la langue qui traîne par terre, tellement elle a soif. Elle s'est dit, cette chienne doit connaître le même stress, la même difficulté, la même envie que moi, il y a seulement quelques temps. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Ben, débrouille-toi. Hein. Moi, je me suis débrouillé, débrouille-toi, comme Karoun. Moi, je ne dois ça que Yannick à ce que j'ai chez moi. Non. Elle descend avec sa chaussure. Elle remplit sa chaussure d'eau. Elle n'avait pas de seau. Elle n'avait pas d'excuse, néanmoins. Elle est descendue avec sa chaussure. Elle a rempli la chaussure d'eau. Elle est remontée. Elle a mis la chaussure entre ses dents. Et à la force que Allah lui a donnée de ses bras, elle est remontée, donner l'eau à la chienne qui a bu. Comme elle voyait que la chienne était encore assoiffée, elle est redescendue autant de fois que Allah l'a voulu jusqu'à ce que la chienne soit désaltérée. Et à cause de ça, Allah lui a pardonné. La pauvre femme, elle a eu ce qu'elle a mérité, elle ira en enfer à cause de sa chatte qu'elle avait. Non seulement elle lui a pas donné à manger, parce qu'il y a des méchants. Les gens se disent, oui, mais Allah, s'il est bon, pourquoi il crée l'enfer? Ils n'ont pas de cœur. Il y a des gens qui n'ont pas de cœur. Dans la société musulmane en particulier. On le sait. Quand moi j'ai entendu une histoire, une pauvre dame qui a ensorcelé ses petits-enfants à cause, parce qu'elle n'aime pas sa belle-fille, qui perdait et les cheveux et tout le reste est devenu comme Allah a voulu les en sauver. Parce qu'une femme qui était, il a envoyé une femme qui était là comme un chien renifleur. Et qui est rentré dans la chambre, qui était en train de chercher partout. Qu'est-ce qu'elle a? Allah ne fait que le meilleur. Elle était invitée par cette. Elle ne savait même pas qu'elle était possédée. Elle partait partout et elle a été dans l'armoire. Et elle a été chercher des choses affreuses qui sont sorties. C'est Allah qui l'a guidée. Et sous le lit de la petite fille, qu'est-ce que ça va t'apporter? Wallahi, on est injuste. Allah, pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi tu fais ceci? Un frère, il est venu, quand j'étais à Bassocambo, il est venu me voir, il me dit, à la fin d'un vendredi, il me dit, je me disais pourquoi Allah a créé l'enfer. Il dit, quand on m'a ensorcelé, on a ensorcelé ma femme, je me suis séparé d'elle, de mes enfants que je ne vois même plus, j'ai compris pourquoi Allah a créé l'enfer. Qui tu es? Remercie Allah. Si tu ne sais pas, dis Allah sait. Ya Allah, tu es le sage. Allah n'a besoin de rien. S'il a fait ça, c'est qu'il sait, subhanahu wa ta'ala. Qu'il y a des hommes, qu'il y a des femmes qui ne méritent que ça. Ce n'est pas par méchanceté. Allah est parfait. Sa miséricorde l'emporte sur sa colère. Et on reviendra dessus, inshallah, parce que je ne voudrais pas dépasser une heure, parce que je pense que le asr va venir assez tôt. Alhamdulillah, on va en profiter pour nous faire pardonner et prendre au moins une demi-heure pour vos questions, inshallah, parce que certaines ne sont venues que pour poser la question sur la belle-mère ou sur autre chose, même si ça n'a rien à voir avec le sujet, mais ce n'est pas grave. Le prétexte, peu importe. Parmi les anges qui vont remonter vers le Seigneur, subhanahu wa ta'ala, ils diront, il y a un tel qui est là. Abdallah, il est là, il n'est pas venu pour écouter la conférence. Il est juste venu parce que, pour Allah dit, ce sont des gens avec qui? Des gens en compagnie de qui? Il n'y a pas de malheur. Même celui-là aussi, je lui ai pardonné. Même s'il est venu pour autre chose. Et donc, ce jour-là, alhamdoulilah, ça permet à la personne qui a perdu qui que ce soit, dans des conditions certainement terribles, d'espérer la justice d'Allah, d'espérer retrouver la personne. Et d'espérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au travers de son épreuve, va pardonner la personne et va la mettre au paradis où il n'y aura plus de mort. Et que la personne, quelle qu'elle soit, quel que soit son pouvoir, le petit pouvoir qu'elle a, Allah est puissant. Et que Allah va contraindre, humilier cette personne qui a été injuste et va prendre le droit de la personne qui a été injustement traitée et va lui donner. C'est consolant. C'est pour cela que celui qui croit à Allah et au jour du jugement dernier, celui qui craint Allah, il est patient. Et la patience est une obligation. Disent les savants, ils sont unanimes. Ne pas accepter une chose, ne pas se satisfaire de ce qui t'amène, ça c'est pas une obligation. C'est pas donné à tout le monde. Les meilleurs d'entre nous, ils ont honte. Ils ont honte de reprocher à Allah. Ils ont honte de se plaindre à Allah, de se plaindre d'Allah plutôt à quelqu'un d'autre. Ils se plaignent qu'à Allah. Ils te disent pas, ya Allah, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et pourtant, tous les vendredis, je donne 10 euros à la mosquée. Ces 10 euros, d'où tu les prends? C'est Allah qui t'a donné la foi, c'est Allah qui t'a donné la santé, c'est Allah qui t'a tout donné de tes 10 euros. Dieu seul sait combien, comment tu les as eus et où tu les as dépensés. Tu ne donnes que 10 euros et encore grâce à Allah. Et tu vas dire à Allah maintenant, mes 10 euros quand même, je ne mérite pas ça. C'est que tu ne le connais pas. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala fera venir les gens et qu'Allah bénisse notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier, ce jour, il n'y aura pas d'injustice. Et donc, tu vas être réconforté, tu vas être patient. Encore mieux, si tu crains vraiment, tu connais vraiment Allah, cette crainte va t'amener à aimer Allah. Cette crainte va t'amener à être patient et à être satisfait. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde de ce que Allah t'a donné. Qu'est-ce que tu mérites, mon frère? Qu'est-ce que tu mérites, ma soeur? Wallahi, Allah est généreux. Allah dit dans le Coran en substance, si Allah s'en prenait aux hommes pour ce qu'il faisait, aux gens pour ce qu'il faisait, il n'aurait pas laissé sur la terre un être vivant. Mais sa miséricorde l'emporte, sans transition. On va parler de sa miséricorde l'emporte. Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parlait pas de lui-même, Allah, quand il a créé, c'est lui qui a tout créé, il a divisé sa miséricorde en 100 parties. Il a fait descendre une seule partie. Il a gardé les 99% de sa miséricorde pour pardonner aux croyants le jour du jugement dernier. Comment tu vas désespérer? Comment tu vas te suicider? Comment tu vas désespérer de celui? Il y a des femmes, alhamdoulilah, qui ont avorté. Elles ont fait la fornication avec qui? Avec des hommes. Une sœur qu'Allah lui fasse miséricorde. Elle dit, je suis sorti de l'islam pendant 10 ans. C'est que certainement Allah même, je ne suis pas mort entre-temps. Sinon, qu'est-ce que je serais devenu? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Ne regarde pas ce que ta sœur a fait. Ne regarde pas ce que l'autre a fait, ton frère a fait. Toi-même, qu'est-ce que tu as fait? Et avec tout ça, Allah pardonnera au jour du jugement dernier. Et déjà ici, sa miséricorde, de cette miséricorde, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le 1 sur 100, cette miséricorde que Allah a fait descendre, procède le fait qu'une jument, quand elle met bas, elle lève le pied pour ne pas écraser son poulet. Qu'Allah bénisse nos mères. Qu'est-ce qu'elles n'ont pas fait pour nous? Et ceci, c'est pas, qu'elles le veuillent ou pas, elles n'ont pas le choix. Ah, c'est Allah qui a mis ce sentiment dans leur cœur de couver cet être fragile, et nous sommes tous fragiles, de lui donner le sein, d'être prête à mourir pour son enfant. Ça, c'est un sentiment de miséricorde que Allah a mis dans le cœur, même des animaux. Et ça ne représente. Et depuis qu'il a créé, jusqu'à ce qu'il hérite de la terre et ce qu'elle contient, ce n'est que le 1 centième. Le prophète sallam, il a vu une femme en train de chercher, qui a perdu son bébé, et qui est en train de chercher. Chaque bébé qu'elle voit, elle se précipite pour lui donner à téter. Il a souri, alayhi salam. C'était le plus souriant des hommes. Donc ne soyez pas aussi dur que certains de nos frères qui n'ont rien compris. Plus tu es dur, plus tu es croyant, plus tu es musulman. Ah, celui-là, il rigole jamais. Non, mais je vous le dis parce que malheureusement, on a une mauvaise référence. Anas ibn Malik, il est resté 10 ans avec le prophète. Il dit, c'est l'homme le plus souriant. Et pourtant, il se rappelait souvent, Allah, il se rappelait souvent au jour du jugement dernier quand il disait, si vous saviez ce que je sais, vous rirez peu et vous pleurerez beaucoup. Et vous n'allez même pas avoir de jouissance avec vos femmes. Tellement c'est terrible. Et pourtant, vis-à-vis des autres, c'était le plus miséricordieux. C'est des hommes. C'est ce qu'Allah lui dit, sallallahu alayhi wa sallam. Si tu n'es pas miséricordieux avec les gens, si tu n'es pas doux avec les gens, tu crois que les gens sont tes esclaves, c'est toi qui les as créés? Tu crois qu'ils vont t'écouter parce que tu penses avoir la vérité? Eh non. Pourquoi des gens qui sont dans le faux attirent les gens? Et toi qui penses être dans le vrai, tu repousses les gens. Et tu crois que tu es dans le vrai? Je t'assure que tu es dans le faux. Le professeur n'a été envoyé que pour parfaire le bon comportement. Les sœurs, quand elles s'y mettent, elles aussi, c'est terrible. Nos frères, on est très dur, très très dur, surtout avec les nôtres. Écrasés devant les autres. Mais nos sœurs, alors, c'est au moins l'équivalent. Donc elles ne se sentent pas à l'abri qu'elles disent, ah oui, mais mon mari, tu vois, moi je suis venu à la conférence ou à la causerie, on m'a dit que vous êtes dur. Mais vous aussi, vous êtes très dur. Surtout avec Yannis, surtout avec vos sœurs. Quand j'entends une sœur, qu'on dit qu'une sœur dit, moi j'étais comme ça quand j'étais égaré. Pour qui tu te prends? Tu crois que tu n'es pas égaré en disant ça? La femme que tu as devant toi, prie pour elle pour que Allah la guide. Toi, elle, elle est égarée et toi, tu n'es plus égaré. Et le prophète sallam a dit, un tel, fais attention, peut-être que le fait d'avoir vexé quelqu'un a attiré la colère d'Allah. Sans faire exprès. Tu l'as peut-être vexé. Tu l'as peut-être mal regardé, tu l'as peut-être un mot que l'homme dit, il ne fait pas attention à ce mot, qui rencontre la colère d'Allah, ça le met dans l'enfer, la tête la première, plus que d'une distance de plus que ce qui sépare le ciel de la terre. Pourquoi tu ne fais pas attention à toi-même, à ce que tu es, à ce que tu dis? Parce que si vraiment tu t'aimes toi-même, sans être l'égoïsme, tu aimeras les autres, tu feras attention à eux, en faisant attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. Ce n'est pas pour eux que tu le fais, c'est pour toi-même que tu le fais. Parce que ça peut t'amener ça peut te mettre dans des positions extrêmement graves. Le prophète, alayhi salam, la miséricorde d'Allah, je n'avais pas fini avec cette femme qui courait partout et qui donnait le sein à tous les enfants, à tous les bébés qu'elle voyait. Et le prophète m'a dit, vous voyez cette femme, est-ce que vous pensez qu'elle est capable de faire du mal à son enfant? Ils ont dit non. Il dit alors, Allah est plus miséricordieux que cette femme. Allah a pardonné, c'est pour nous, Allah a pardonné à quelqu'un qui a tué 100 personnes, vous connaissez l'histoire. Le professeur nous a raconté qu'il y avait un homme, serial killer, comme on le compte dans les séries que vous regardez. Serial, je ne sais même pas si ça, pourquoi ça vous plaît d'ailleurs. Ils font que verser du sang et on est là en train de chercher la suite. Et après, on se demande pourquoi les enfants sont en train de tuer, poignarder, faire n'importe quoi pour arriver à de l'argent. Et ils ne font que passer ça et aller dans nos télés et ailleurs. Et nous, on est là en train d'absorber ça. D'où vient la violence? Au moins de là. Je parle pas de... Il y a bien d'autres raisons, mais au moins de là. Pourquoi on permet ces choses-là? C'est des divertissements, ça. De se plaire à avoir du sang couler, c'est du divertissement, ça, que tu fais voir à tes enfants. Et après, tu t'étonnes qu'ils aiment le sang. Toute la société est responsable et on n'a que ce qu'on mérite. Cette personne a tué 99 personnes. Et Allah a créé pourtant dans son cœur de la miséricorde, du repentir, du regret et l'envie de repentance. Et la personne a été rentrée, il n'y a pas de hasard, dans une des maisons de Dieu. À l'époque, c'était certainement une synagogue. Elle est rentrée. Elle a trouvé quelqu'un en train de prier. Elle dit, moi, j'ai tué 99 personnes. Est-ce que Allah va me pardonner? Il a dit non. 99, c'est quand même trop. Voilà ceux qui prennent le Coran et qui le lisent. Et celui qui a tué une personne, c'est comme s'il a tué l'humanité entière. Donc toi, tu as tué quelqu'un, c'est fini. Jamais Allah ne va te pardonner. Tu n'as pas compris. Tu as pris un texte, tu n'as pas pris le reste. Et donc il dit, puisqu'il ne va pas me pardonner, je vais te tuer. Il a tué sans, pas la peine de s'arrêter. Et quand même, il a été pris de remords. Wallahi, Allah est généreux. Sinon, on ne serait même pas là. Notre existence, même en train d'écouter ça, vous connaissez tout ça et pourtant vous êtes poli, vous êtes encore assis. Et il va encore être pris de remords, de regrets. Il va revenir, il va rencontrer un homme savant, et Allah seul est savant, c'est un, on dira aujourd'hui, un rabbin. J'ai tué 100 personnes, est-ce que Allah va me pardonner? Il dit oui, mais à condition que tu quittes cet endroit et que tu ailles avec des gens qui font du bien. Et la bonne compagnie, elle est la bonne compagnie. Et Allah a envoyé les meilleurs des hommes pour accompagner les meilleurs des hommes. Donc ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu veux être bien, si tu veux aller vers Allah, va avec des gens qui croient en Allah et qui font le bien. Et pas avec des gens qui sont là en train de juger les uns les autres, avec leur petit groupe heureux, en train de mettre la miséricorde d'Allah dans un T5. On est combien dans la mosquée? On est tant. Et bien donc voilà, le paradis sera ça, il ne faut pas que les autres rentrent. Et donc il est parti, alhamdoulilah, et avant de mourir, avant d'arriver, vous savez ce qui lui est arrivé, il est mort. Et Allah a envoyé les anges de l'enfer, qu'Allah les bénisse. Les anges du paradis sont descendus en même temps pour récupérer son âme. Et les anges du paradis, ils ont dit, il voulait faire le bien. C'est quelqu'un qui a fui le mal. On va prendre son âme. Et les anges de l'enfer disent, non, c'est nous qui méritons plus de prendre son âme et de l'amener en enfer. Parce qu'il a tué 100 personnes. Et Allah a envoyé un ange sous la forme d'un homme. Et il lui a dit, de quoi vous discutez? Ils lui ont raconté l'histoire. Il a dit, alors, je vous suggère une chose. Mesurez la distance qui le sépare de là où il est parti, de là où il est mort, et de là où il est parti, de là où il est mort, de là où il voulait partir. Si la distance qui le sépare de là où il voulait partir est plus courte, c'est qu'il est plus proche du bien. Vous allez l'amener au paradis. Et si la distance qui le sépare de là où il est parti et de là où il est mort est plus courte, c'est qu'il n'a pas encore atteint le bien. Et alors, vous allez l'amener à l'enfer. Bien sûr, la miséricorde d'Allah qui est infinie a voulu que la distance qui le séparait de là où il voulait partir, d'où la bonne intention. Et Allah seul sait. La bonne intention qui n'est pas suivie de l'acte, Allah le récompense comme une bonne action. Pas parce qu'il n'a pas réussi, parce qu'elle a refusé. Elle a refusé ta proposition du haram. Non. C'est que finalement, elle n'a pas. Tu as craint Allah. Les trois qui sont retrouvés dans la grotte, parmi ceux-là, le troisième pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert la grotte, c'est qui? Il dit, oh Allah, j'avais une cousine que j'aimais comme on ne peut pas imaginer. Je lui ai proposé de faire le haram et elle a refusé. Mais elle était endettée, elle avait besoin d'argent. Elle est venue me demander, est-ce que tu peux me donner de l'argent, tu peux me prêter? J'ai dit non, à condition que je fasse le haram avec toi. Se sentant contrainte, elle a accepté. Et au moment où j'allais faire le haram avec elle, elle a dit, crains Dieu. Ne touche pas à ce qui ne t'appartient pas. Et il lui a laissé et l'argent et respecter sa cousine. Ya Allah, si c'est à cause de toi, de ta crainte que j'ai fait ça, fais que la grotte s'ouvre et la grotte s'est ouverte. C'est pas parce que tu as essayé, finalement, elle a refusé. Non, c'est parce que tu avais la mauvaise intention, a dit le professeur Sallam. Celui qui avait une mauvaise intention et qui abandonne la mauvaise intention et qui arrête de faire le péché, ne l'a pas fait, Allah le compte comme une bonne action. Et donc ce Seigneur, il est miséricordieux. La bonne intention est essentielle. Il n'y a pas de bonne intention dans un mauvais acte. Comme une sœur qui l'envoie, j'ai dit aux sœurs ceci et cela, elle dit non, non, moi j'avais une bonne intention. Il n'y a pas de bonne intention dedans. La bonne intention, disent les savants, c'est dans le bon acte. Les actes ne valent que par l'intention qui les anime. Comprends ta religion, apprends ta religion. Je veux faire du mal, mais non, mais j'ai une bonne intention. Je veux tuer les gens à Paris ou ailleurs, mon intention c'est de défendre l'islam. Non, tu n'as pas le droit. Parce que ce n'est pas toi qui définis l'islam. C'est Allah qui définit l'islam. Tu n'as pas le droit. L'islam ne t'appartient pas. Inna dina inna Allah l'islam. L'islam appartient à Allah. La religion chez Allah, c'est l'islam. Comment est-ce que tu vas te permettre de faire des choses au nom de l'islam alors que tu n'es pas savant, alors que tu n'as pas cherché et tu as subi tes passions. Ça, c'est vrai pour eux, c'est vrai pour nous, c'est vrai pour tout un chacun. La bonne intention ne suffit pas. La bonne intention ne suffit pas. Il faudrait que les actes, pour que Allah accepte les actes, vous le connaissez, c'est l'islam. Deuxièmement, l'intention soit faite que pour Allah seul. Et troisièmement, que ça suive la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça vaut. Si l'un des actes, si l'une des trois conditions n'est pas remplie, Allah n'accepte pas, il n'a besoin de rien. Cette miséricorde d'Allah est infinie, ses anges l'ont amené donc au paradis. La miséricorde d'Allah, Allah dit dans un hadith saint, dans un hadith qudsi, ô mon serviteur, tant que tu m'invoqueras, tant que tu placeras ton espoir en moi, c'est-à-dire que je vais te faire miséricorde, et que tu me rencontres, même si tu as des péchés qui remplissent l'espace entre le ciel et la terre, et que tu me rencontres sans rien m'associer, je te donnerai l'équivalent pour t'effacer tes péchés. Si tu me rencontrais en remplissant le ciel de tes péchés, si tu me rencontres sans rien m'associer, je t'en donnerai l'équivalent pour te pardonner. Et donc ce pardon, cette misère, celui qui croit en Allah, qui croit au jour du jugement dernier, certainement ne doit pas cesser de demander pardon à Allah pour tous les péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah pardon pour ce qu'il a pu lui associer consciemment, et il ne lui a pas associé consciemment, et pour ce qu'il a pu lui associer inconsciemment. Il demandait 70, plus de 70 fois, 100 fois par jour, pardon, Allah, il était sincère, ce qui n'est pas notre cas toujours. Et Allah a loué ce prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, à cause d'al-inaba, le fait de revenir souvent en repentant à Allah. Si tu penses à Allah, le minimum que tu puisses faire, même en sortant des toilettes, c'est ce que faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ghufranak, ton pardon, Seigneur. Parce que personne ne mérite. Personne ne rentre au paradis plutôt, comme il a dit le prophète sallam, par ses actes. On a dit même toi, il dit même moi, si ce n'est que Allah va me faire miséricorde. Même le prophète sallam ne rentre pas au paradis à cause de ses actes, et pourtant qu'Allah le bénisse. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Nous témoignons qu'il a fait parvenir son message. Nous témoignons que de jour comme de nuit, il a appelé les gens vers l'amour d'Allah, les gens vers l'obéissance à Allah. Il n'y a pas de porte de bien qu'il ne nous a pas montré, il n'y a pas de porte de mal qu'il ne nous a pas montré. Et malgré cela, et tout bien que Allah fait faire à quelqu'un, venant de ce que lui nous a fait parvenir, lui sera compté, sallallahu alayhi wa sallam. Et néanmoins, même lui ne rentrera pas au paradis. Comment tu vas te baser sur tes actes en disant que moi je mérite le paradis? Wallahi, si tu savais les injustices que tu faisais, à commencer par l'ingratitude vis-à-vis de tes pères et mères, surtout les gens de cette génération-là, moi je vous plains. C'est pas que nous on n'a pas été ingrats, on a été certainement ingrats. Mais alors, à côté de vous, ne vous comparez pas. Quand on entend un enfant ici en train de parler, tenir tête à son père, en train de tenir tête à sa mère, tu meurs dans cet état, Wallahi, je crains pour toi, je crains pour moi. Ça, c'est une des choses malheureuses que l'on voit. Et comme je dis souvent, la première chose qui m'a choqué ici, c'est de voir des maisons de retraite. J'ai dit, c'est quoi? On me dit, c'est là où ils mettent leurs parents quand ils sont vieux. Comment tu peux justifier ça devant Allah? Mon père, ma mère, ils ont tout donné pour moi. Ils n'avaient pas grand-chose. Et maintenant que tu as fini, que tu as été faire des emprunts à la banque, que tu t'es construit je ne sais quoi, moi je vais les mettre dans une maison et ils vont mourir là-bas parce que j'ai quand même une femme, moi. J'ai quand même des enfants. J'ai mon chien à nourrir. Et le jour de Noël ou le jour de l'an, je vais les visiter. Wallahi, qu'est-ce que tu mérites? Allah seul sait ce que tu mérites. Et malheureusement, on trouve ça même chez les gens qui se disent croyants parmi nous. La femme va poser comme condition, l'homme va poser comme ceci. C'est quoi ça? C'est quoi? Il faut qu'on craigne Allah. Cette crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui doit nous amener. C'est la clé du succès. Et les savants disent, le temps passe très vite, que cette crainte, la crainte et la miséricorde ou l'espoir, ce sont les deux ailes de l'oiseau. Ça s'équilibre. Tu dois craindre Allah tant que tu as envie. Tant que tu as envie et que tu oublies que la mort est à tes trousses. Et l'espoir doit l'emporter au moment où tu vas mourir. Le prophète m'a dit qu'aucun d'entre vous ne meurt qu'en ayant une excellente idée d'Allah. Quand tu penses qu'Allah va te châtier, il va te châtier. Parce que tu ne le connais pas. Tu penses qu'il est. Allah va te châtier, mais il va te châtier. Donc, ce n'est pas l'espoir vain. Ah, inna Allaha ghafoor rahim. Si nos frères et nos sœurs connaissent un verset, c'est celui-là. Allah est miséricordieux, ghafoor, pardonneur, rahim, miséricordieux. Et tu oublies l'autre partie, la innahu shadidul iqab. Et il est certainement le dur de punition. Donc, c'est quand tu vas mourir, Abu Bakr, le meilleur des compagnons du Prophète sallam, il a dit, je vous désigne Omar quand je vais mourir comme calife. Ils ont dit, ah oui, Omar, il est trop dur. Il est dur avec Shaitan, oui. Il est trop dur, qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Il dit, ah oui, vous voulez me faire peur. Je vais dire à Allah, je leur ai laissé le meilleur d'entre eux. C'est tout. Allah sait, j'ai fait mon choix. Et c'est Allah qui me l'a inspiré parce que c'est le meilleur d'entre vous. Vous voyez sa dureté. Il dit, si vous le voyez dur, c'est parce que moi, je suis trop doux. C'est pas pour se vanter. C'est-à-dire, je ne suis pas assez dur avec vous. Donc, il équilibre. Mais quand je ne serai pas là, quand c'est lui qui va être responsable, vous allez voir comment il va être doux. Et effectivement, il ne dormait pas. Tant qu'à Médine, il n'était pas sûr que tout le monde était en sécurité. Tant qu'à Médine, il n'était pas sûr que tout le monde avait eu à manger, à boire. Il dit qu'il craint au jour du jugement dernier. Lui, il craignait Allah. Qu'Allah le bénisse. Qu'au jour du jugement dernier, qu'un bédouin, un berger vienne à Allah en disant, Ya Allah, châtie Omar, parce qu'il n'a pas aplani les chemins de telle montagne et j'ai perdu ma brebis. Mais ça, c'était avant. Ce n'est pas ceux qui se battent pour avoir le pouvoir. Ce n'est pas ceux qui se proclament, moi je suis l'homme, moi je suis le chef de famille. Moi je suis, tu es chef de famille. Ça veut dire que tu seras interrogé sur ta responsabilité. Kullukum ra'a, a dit le prophète. Chacun d'entre vous est responsable. Et sera responsable de ce qui lui aura été confié au jour du jugement dernier. Et donc, celui qui se bat pour devenir le chef, il ne sait pas ce que c'est. Il ne connaît pas la responsabilité de ce que c'est. Mais si Allah te le donne, il va t'assister. Donc, au moment de mourir, tu comptes sur la miséricorde d'Allah. Mais quand tu es en vie, qu'est-ce que Allah va faire de moi? Disait Omar, alors qu'il avait été assassiné. Et depuis, c'est la porte de la fitna qui a été fracassée, comme si elle avait été prophétisée par le meilleur des hommes, alayhi salam. On dit, est-ce que dans la communauté, la porte de la fitna, c'est-à-dire de la sédition, des épreuves, est-ce qu'elle va s'ouvrir ou est-ce qu'elle va être fracassée? Ils ont dit, ça va être fracassé. Effectivement, il n'était pas au marché, il était en train de faire la prière du matin, au sommet. Quand un mage est venu le poignarder. Et depuis, on est dans cette fitna qui fait tuer l'homme, qui pousse les gens, les musulmans, à s'entretuer comme partout dans le monde aujourd'hui, parce qu'ils ont oublié l'enseignement de l'islam. La porte a été fracassée. Et il a mis la tête, son fils plutôt, Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, il a mis la tête de son père sur sa cuisse. Là, tu vas aller chercher plutôt un coussin, parce que tu as besoin de ta cuisse, on ne sait jamais. Il a dit, descends ma tête, je veux bien sentir la fraîcheur du sol où je vais reposer. Ô pauvre Omar, ô pauvre de la mère de Omar, qu'est-ce que tu vas dire à Allah si Allah t'a pas pardonné? Et donc, au moment de rencontrer Allah, tu dois savoir qu'il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Tu dois savoir que celui qui aime Allah, comme l'a dit le prophète sallam, Allah, celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Aïcha, notre mère, elle dit, mais comment on aime, personne d'entre nous n'aime la mort. Il a dit, non, ce n'est pas ça. Quand tu aimes rencontrer Allah, ça veut dire qu'au moment de la mort, avant de mourir, Allah t'envoie la preuve qu'il a été satisfait de toi. Et le prophète sallam, dans un hadith qui est très long, et je n'ai pas le temps de vous en parler, l'ange de la mort, quand il arrive auprès d'un croyant, il se met à distance pour ne pas l'effrayer. Il te dit que la paix soit sur toi. Ô âme bienveillante, sors de ton corps. Il a dit que l'âme sort comme une goutte d'eau d'un arrosoir. Quant au désobéissant mécréant, l'âme vient, l'ange de la mort vient, il l'arrache. Ô âme maudite, sors de ton corps, Allah t'a maudit. Et donc Allah montre au serviteur là, sa place au paradis et sa satisfaction de le rencontrer. Et donc l'homme aime rencontrer. L'homme rencontre son Seigneur. Et quand celui qui ne veut pas rencontrer Allah, Allah n'aime pas le rencontrer. Si tu penses que Allah va te châtier avec tous tes péchés, c'est que tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Et je vais m'arrêter, inshallah, sur ces trois choses. Shaitan a failli me le faire oublier, que j'aime beaucoup, Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, Allah a mis trois fleuves dans ce bas monde et un quatrième dans l'au-delà. Allah est pur, n'accepte que ce qui est pur. Et ne rentrera au paradis que les gens qui ont été purifiés. Allah a mis trois fleuves dans ce bas monde. Le croyant passe dans l'une ou dans les trois fleuves, sinon il passera par l'enfer qui est le quatrième fleuve de l'au-delà. C'est le repentir. Et c'est facile. Wallahi alhamd. Allah l'a facilité à qui il veut. Non seulement tu as fait des péchés, tu as désobéi à Allah matin et soir. Allah a créé en toi le regret. Et ensuite, le repentir sincère. Et ensuite, tu as eu des obstacles. Non, 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 je vais attendre d'abord d'avoir mon diplôme. Je vais attendre d'abord de finir ceci. Je vais d'abord finir. Quand j'aurai 40 ans, je vais aller au Hajj. Allah a enlevé tout ça de ta route. Et tu es revenu vers Allah repentant. Allah te pardonne. Celui qui sincèrement demande pardon à Allah, c'est comme s'il n'a pas fait de faute. C'est comme s'il n'avait pas fait de faute. C'est comme s'il n'y avait pas de faute. Notamment, ceci est accordé aux gens qui sont revenus vers Allah, même après leur avoir associé quoi que ce soit. En particulier, les reconvertis, hommes et femmes. Le prophète m'a dit, la reconversion efface ce qu'il y avait de péché avant. Et Allah te garde les bonnes actions. L'autre fleuve, c'est les bonnes actions. Il ne faut pas s'arrêter. La bonne action, dit Allah, efface la mauvaise. Et la bonne intention, quand il fait une bonne action, Allah la récompense 10 à 700 fois. Et quand il fait un péché, il ne l'inscrit qu'une fois, comme un seul péché. Et donc la bonne action n'arrête pas. Toi qui as menti, qui as volé, qui as triché, qui as fait ce que tu ne peux pas imaginer, n'arrête pas, n'attends pas demain. Il se peut que ton demain, ce soit dans l'au-delà et qu'aujourd'hui, tu vas mourir. Donc n'attends pas le soir pour faire le bien, alors que tu as encore le matin. N'attends pas le matin, alors que tu as encore le soir pour faire le bien. La foi la plus faible, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le degré le plus bas des 67 et quelques, ou l'équivalent, c'est le fait d'enlever un obstacle d'une rue ou d'un chemin pour que quelqu'un ne soit pas blessé ou autre chose. C'est le minimum. Tu vois les frères, mashallah, ils étudient. Mais ils ne font rien que ça, entre guillemets. Ils préfèrent laisser les choses aux autres. Non, pas du tout. Tout ce que tu peux faire, jusqu'au sourire, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même le sourire en face de ton frère, ou en face la sœur, en face ta sœur, ou la lokma, la bouchée que tu mets dans la bouche de ta femme, c'est une sadaqa. Non, on ne va pas le faire, on va se cacher, on va éteindre la lumière. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah oui, il donne des fleurs à son épouse. J'espère, inchallah, que le fleuriste est ouvert. Avant de rentrer, vous achetez, je ne vais pas vous rembourser, vous achetez des fleurs, si elles sont là, alhamdoulilah, vous leur offrez. Le sourire en face de ton frère, c'est une sadaqa. Si tu penses à ça, wallah, il se peut que Allah te multiplie par 700 ce que tu es en train de faire. Parce que demain, ça va peut-être te manquer. Quand les gens que tu as maltraités viendront faire la queue, ils vont prendre tes bonnes actions. Peut-être qu'il va plus t'en rester. Et le troisième fleuve que tu n'aimes pas, c'est les épreuves. Il n'arrive pas aux croyants, a dit le prophète sallam. Ce qu'il n'aime pas, depuis la piqûre d'une épine jusqu'aux soucis matériels, sans que Allah ne lui enlève pas de péché et ne l'élève en degré. Si tu savais ce que tu as souffert, wallahi, au jour du jugement dernier, celui qui a souffert le plus, il va demander à Allah presque pourquoi tu ne m'as pas fait encore plus souffrir. Tellement la récompense est énorme. Il y a des péchés qui ne sortent qu'à cause de cette épreuve-là. Donc il y a ces trois fleuves, la bonne action, le fait de demander pardon à Allah et le fait d'être éprouvé par la perte de tes biens, par ta famille, par tes voisins, par ceci et cela, par tout ce que tu aimes et que tu n'aimes et que tu ne trouves pas, tout ceci te fait pardonner. Et si tu rencontres Allah alors que tu n'as pas été purifié par ces trois voies, alors tu passeras nécessairement par l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et après, si tu es mort croyant sans rien associé à Allah, dans sa miséricorde, il te fera rentrer au paradis. Et c'est le summum de sa miséricorde. Le summum encore, c'est que tu verras sa face, subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie de notre dogme. On verra Allah au paradis. Bien sûr, pour ceux qui vont y rentrer. Et il ne sera pas donné à une créature d'avoir autant de joie. Ça, c'est le summum de la miséricorde. C'est ce qu'aucun œil n'a vu, aucun n'aurait entendu parler, dont l'imagination n'est passée dans l'esprit de personne. Et le repentir, pour vous le résumer, et vous le savez, a quatre conditions, six selon certains. Toujours est-il qu'il faut arrêter la faute, quelle qu'elle soit. Tu ne vas pas dire quand j'aurai fini ceci, quand j'aurai fini cela, je vais me repentir. Allah sait que tu n'es pas sincère. Le repentir sincère, c'est le fait d'arrêter la faute. De la regretter, pas de la raconter à tes petits-enfants. Non, mais laisse-les, faites ce que vous voulez. Moi, quand j'étais enfant, moi, quand j'étais plus jeune, je faisais comme vous. Alors, celui qui a étalé ses fautes, demain, Allah va le châtier à cause de ça. Allah t'a caché les fautes, ne le raconte pas. Arrêter, regretter, décider de ne plus jamais le refaire. Comme tu craindrais de tomber dans le feu, tu y es déjà. Tu es au bord du précipice. Jamais. Tu dis, Ya Allah, assiste-moi pour que plus jamais je ne t'associe quoi que ce soit. Plus jamais je ne sois attiré pour faire ceci et cela. Plus jamais que je ne mente. Plus jamais que je ne calomnie. Plus jamais que je ne médise, etc., etc. Et disent les savants, ils sont unanimes dessus. Une des conditions, c'est que si tu as pris le droit de quelqu'un, tu le payes. Parce qu'il y a trois catégories de choses. Trois types d'injustice. Une injustice que Allah ne pardonne pas, c'est que tu meurs en lui associant quoi que ce soit. En pensant que tel saint pourrait te sauver, en pensant que Ibrahim, bien qu'étant ami d'Allah, va te sauver par rapport à Allah, en pensant que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va faire ceci et cela sans la permission d'Allah, en pensant que ceci et cela. Ça, Allah ne pardonne pas. Celui qui meurt dans cet état, il l'a fait dans ce bas monde, il a regretté, Allah lui pardonne. Et donc, il faut que tu payes ça. Ça, tu ne peux pas. Allah ne pardonne pas. Une autre que Allah pardonne, c'est que tu as été négligent vis-à-vis de ceci, vis-à-vis de cela. Ça, c'est son droit, il te le pardonne. Et une faute que Allah ne pardonne pas jusqu'à ce qu'il prenne tes bonnes actions, c'est la faute faite à autrui, à ses créatures. Ton père, ta mère, ton épouse, tu vas le payer. Elle va venir réclamer, tu la vois gentille comme ça. Au jour du jugement dernier, yom yafirul mar'u min akhi, le jour où l'homme va fuir son frère. Il va fuir père et mère. Il va fuir son épouse et ses enfants. Donc ne pense pas qu'elle est gentille ici, qu'elle va payer l'injustice que tu lui as faite. Ne pense pas qu'il est gentil ici, qu'il a supporté tes caprices, que demain, tu vas le payer. Et donc il faut lui demander pardon ici. Et Ibn Qayyim aurait dit, il faut prendre la route. Il faut que ce soit avant que le soleil ne se lève de l'Occident, avant que l'âme n'atteigne le gosier quand nous allons mourir, et également il faut que tu prennes le droit chemin. Ah, moi je me repens, je regrette d'avoir fait, et voilà. Je ne fais pas le bien. Non, c'est le bien qui va effacer le mal. Et donc ça, c'est extrêmement important de se retrouver dans cette situation. Et le prophète sallam demandait souvent pardon à Allah, bien que le connaissant le mieux parmi nous, et bien qu'espérant sa miséricorde. Donc la taouba est une obligation. Allah dit, et Ibn Qayyim le rappelle, c'est « Wa man lam yatub fa ulaika humu dhalimun ». Il y a deux catégories de personnes. Dans la sourate 49, Allah dit « Et celui qui ne se repent pas, ceux qui ne se repentent pas, ce sont les injustes. » Donc il y a deux catégories. Allah définit deux, pas trois. Ceux qui se repentent, et Allah aime les gens qui se repentent, et ceux qui ne se repentent pas, qui sont les injustes. Donc, soit parmi les gens qui se repentent matin, midi et soir, à l'exemple du professeur Salam, revient et soit le meilleur mari, soit la meilleure épouse, soit le meilleur père, soit le meilleur voisin. Et il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde sa félicité. Wallahu a'la wa a'lam. Où aura lieu le jugement dernier? Il aura lieu là où Allah sait, le prophète m'a dit, il aura lieu sur une terre qui n'est pas celle-là. Comment éviter le châtiment de l'au-delà? En travaillant ici, quand on a fait des péchés, c'est demander sincèrement pardon à Allah, c'est se précipiter, comme j'ai dit, en faisant de bons actes, et Allah va t'éprouver. Alhamdoulilah, le fait que tu viennes à la mosquée, un pas, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, t'élève en degré, l'autre pas t'efface tes péchés. La prière, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les cinq prières, c'est l'exemple de quelqu'un devant qui passe un fleuve ou une rivière, il se lave cinq fois par jour. Est-ce qu'il va lui rester un des péchés? Le jeûne que tu fais, etc. La Umrah, le Hajj, efface tous les péchés. Donc il faut se précipiter, n'attends pas, ne perds pas ton temps devant les feux de l'amour, et le reste, ça t'apportera que du mal. Rappelle-toi Allah, la ilaha illallah, la seule carte, la ilaha illallah, wahdahu la sharika la. En attestant que Allah seul mérite l'adoration, si ça vient de ton cœur, quelqu'un viendra avec 99 registres le jour du jugement dernier, et chaque registre s'étale jusqu'à l'horizon, et la ilaha illallah va avoir plus de poids que ces 99 registres de péché. Il faut croire en Allah, il faut le connaître, il faut l'aimer et se précipiter vers les bonnes actions avant qu'il ne soit donc trop tard. Quand j'ai même instruit, est-ce que je peux venir au cours ou au vendredi? Alhamdoulilah, le micro, on l'a installé là pour cela, pour que tu ne rentres pas. Il y a plusieurs avis dessus. On ne peut pas dire que tu ne peux pas venir, mais si tu viens, en tout cas ici, alhamdoulilah, il y a des micros pour que tu puisses les écouter à l'extérieur pour cesser les divergences. Certains disent tu ne peux pas, d'autres disent tu peux. Donc nous, on a installé, alhamdoulilah, il y a des micros pour que tu puisses profiter et du vendredi et de l'Aïd et du reste, même si tu ne peux pas rentrer dans la mosquée. Des fois, je reçois mon beau-frère, âgé de 60 ans, moi j'ai 55 ans et que je suis avec mes ablutions. Est-ce que je dois les refaire? Car soit on se fait la bise ou serrer la main. Le prophète Salam a dit, mieux vaut que tu te fasses transpercer par un clou plutôt que de toucher à quelque chose qui t'est interdit. Donc ton beau-frère qui a 60 ans, il reste quand même un homme et j'espère qu'il ne souhaite pas la mort de ton mari pour t'épouser. On est des hommes. Il faut éviter ce que le prophète Salam nous a dit d'éviter. Voilà. Donc, quand le fait de lui serrer la main, est-ce que ça fait perdre les ablutions? Certains parents disent, et certains savants disent oui. Chez les malikites, l'avis que beaucoup d'entre nous suivent, c'est ça ne fait pas perdre les ablutions s'il n'y a pas derrière du plaisir, entre guillemets. Mais il faut s'en éloigner. Ça, c'est clair. Des fois, quand je fais la prière, pourtant, je suis concentré, j'ai toujours des pensées ailleurs. C'est que tu n'es pas concentré. Comment faire pour arrêter les pensées qui trottent dans ma tête? Justement, tu n'es pas la seule. Ce sont des choses, le prophète m'a dit, c'est Shaitan qui te les amène. Et il va te dire, fais ceci, n'oublie pas cela. C'est que le khushu', c'est le titre de ce livre que vous ne voyez pas, vous les sœurs, d'Ibn Qayyim, c'est pas Ibn Qayyim, humilité et recueillement dans la prière, 33 conseils pour atteindre le khushu', je ne vais pas te le vendre, je vais te le faire passer, Inch'Allah, de Mohamed Saleh al-Munajid, donc sur lequel je n'aurai peut-être pas le temps, je voulais vous parler du djihad, puisqu'on entend tellement de djihad et djihadistes, donc je voulais vous en parler avec les conditions, et donc qui est dans ce livre-là que je te conseille. Il faut s'imaginer que tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu es devant le sirat qui est jeté sur l'enfer, que tous tes péchés seront vus et que tu es devant le Seigneur des mondes. Et il se peut, et que tu ne te viennes pas, alhamdoulilah, que tu viennes tôt et que tu fasses bien tes ablutions, que tu fasses les rawatib, les prières que tu fais avant le dhuhr, avant le maghrib, avant le isha ou après le isha, etc. Et que tu te rappelles souvent Allah et tu te rappelles le jour du jugement dernier, il se peut que ça chasse Shaitan, inshallah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, je suis reconverti. Ma maman est morte, mais créante. Puis-je prier pour elle et demander pardon à elle, Azza wa Jal, pour elle? Qu'Allah bénisse tous les musulmans ici présents et les autres. Amin. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé à Allah de visiter la tombe de sa mère, il lui a permis. Il a demandé à Allah de prier pour elle, Allah a refusé. Donc on ne peut pas prier pour quelqu'un qui est mort en dehors de l'islam. Ibrahim alayhi salam, Allah lui a interdit de prier pour son père une fois qu'il savait qu'il était des gens de l'enfer. Donc, je sais que ça touche, mais crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a aimé et t'a guidé. Prie pour elle, enfin, prie pour les gens qui sont encore vivants plutôt, puisqu'elle est décédée, et elle a ce qu'elle a mérité. Allah est juste. Donc, je compatis absolument à ta douleur. Et nous qui sommes musulmans aujourd'hui, toi en particulier, tu n'as rien fait à Allah, ou Allah ne te doit rien. Il t'a aimé et il t'a guidé. Donc, remercie de t'avoir guidé et sache qu'il est le sage et il est le plus miséricordieux. Je ne vois plus ma sœur parce qu'elle fréquente une personne qui pratique le shirk. Et cette personne en question a atteint mes enfants. La hawla wa la quwwata, avec ses méfaits. Aujourd'hui, je n'arrive pas à pardonner à ma sœur. Et quel comportement dois-je adopter avec elle, sachant qu'elle ne veut pas couper avec cette femme? Tu pries pour elle. Tu lui envoies un SMS parfois. Et où tu la dictes à ton enfant, puisque toi, tu n'as même pas la force de le faire. Je vous le conseille, c'est en me le conseillant. Le prophète sallam dit, Allahumma ghfir qawmi fa innahum la ya'lamun. Ils ont associé à Allah, oh mon Dieu, pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas. Sache que cette femme, ta sœur, ne sait pas. Elle est ignorante. Ibn Qayyim disait, qu'Allah lui fasse miséricorde, si tu vois quelqu'un en train de faire un péché, prie pour lui. Aie pitié de lui. Parce que si la personne meurt dans cet état, elle ira dans l'enfer. Elle mérite l'enfer plutôt. Et donc, tu dois remercier Allah de ne pas être à la place de ta sœur. Ce qu'elle a fait, c'est grave. Ce qu'elle a fait, c'est grave. Mais si toi, tu ne demandes pas pardon pour elle, elle est égarée, elle meurt comme ça, tu ne seras pas fier de sa situation. Donc, demande à Allah de pouvoir lui pardonner. Demande à Allah de pouvoir lui pardonner. Et ce n'est pas donné à tout le monde. On est tous rancuniers. Est-ce que tu ne veux pas que Allah te pardonne? Est-ce que tu ne veux pas que Allah te pardonne? Bien sûr que la réponse est oui. Alors pourquoi tu ne pardonnes pas à l'autre? Ce n'est pas parce que tu auras pardonné à cette femme, à ta soeur, ou à celle-là qui t'a fait du mal, Allah est omnipotent. Ce mal, disait le prophète sallam, à quelqu'un qui avait 15 ans, si le monde entier tu voulais le mal ne te touche que si Allah te l'a prescrit. Et donc ne crains pas cette femme. Prie pour elle qu'Allah la guide. C'est mieux pour elle. Et il t'arrivera que du bien. Tu patientes, Allah va t'enlever des péchés. Et au jour du jugement dernier, tu vas être étonné. Et tous mes péchés, Allah va dire parce que tu as patienté. Donc, ce n'est que du bien pour le croyant, comme le disait le professeur Sallam. Demande à Allah, je ne dis pas que je suis pas rancunier, mais demande à Allah de t'enlever cette haine. Cette haine vient du shaitan. Ta sœur a mérité ce qu'elle a mérité, mais toi, tu dois. Idfa'a billatihi ahsan. Allah dit, repousse le mal par le bien. Le mal qu'on te fait par le bien. Donc, essaye, demande à Allah, comme pour toi et pour nous, donc de pardonner et de lui envoyer des SMS, de lui téléphoner si tu peux, et ce sera un très grand bien pour toi. Parfois, j'ai peur d'avoir un comportement hypocrite. Comment être sûr que notre relation est pure? Comment savoir si notre cœur est honnête? Ça, au moins, si j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, c'est que tu n'es peut-être pas hypocrite. Parce qu'on fait dire à mieux que moi, Hassan al-Basri, qu'Allah fasse miséricorde, ne craint l'hypocrisie que le croyant. Ne se croit à l'abri de l'hypocrisie que le vrai hypocrite. Ah non, moi je ne suis pas hypocrite. Ceux-là sont hypocrites, qu'est-ce que tu en sais? Le prophète Salam t'aurait dit, pourquoi tu n'as pas ouvert le cœur? Pour savoir. Juge-toi toi-même. Tant que tu penses, tu crains d'être hypocrite, tu ne le seras pas. Mais quand tu penses que tu n'es pas hypocrite, je crains que tu le sois. Donc, tu sais très bien si tu as fait ça pour que les gens disent, etc. Éloigne-toi de l'ostentation, du fait que tu fais pour les gens, etc. Et demande à Allah la sincérité. Tu ne seras jamais sûr jusqu'à le rencontrer, de savoir si tu es hypocrite et qu'Allah nous préserve de l'hypocrisie. En tout cas, le prophète m'a dit les quatre caractéristiques de l'hypocrite, quand il parle, il ment. Donc, fuyons le mensonge. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Quand il confie quelque chose, il trahit. Et quand il se met en colère, ben, il devient incontrôlable. Ni foi, ni loi. Si tu as ces quatre, le prophète m'a dit, il est hypocrite pur. On dit que ce sont les actes d'hypocrisie. Mais quelque part, ça trahit ce qui est dans notre cœur. Donc Allah purifie nos cœurs et c'est ce qui nous manque le plus. Je vais me marier bientôt, Inch'Allah. Est-il obligatoire qu'un imam soit présent? Alhamdulillah, ils ont assez de choses à faire. Que faut-il prononcer exactement pour que le mariage soit valide? Le mariage a des conditions. Le mariage a des choses obligatoires. C'est deux choses sont absolument obligatoires pour la validité du mariage, c'est le tuteur. Le professeur m'a dit, il n'y a pas de mariage sans tuteur. Et deux témoins. Témoins, ce n'est pas toi et moi. C'est des gens dignes de confiance qui font leur prière, de qui on pense du bien. Tuteur, c'est ton père, si tu es musulmane. Si c'est père musulman, bien sûr. Sinon, ton grand-père. Sinon, ton frère. Sinon, ton oncle. Dans cet ordre-là, si ma mémoire est bonne. Donc, Alhamdoulilah, ne dis pas parce que tu aimes le garçon que tu as rencontré à la mosquée. Et non, moi, mon père ne fait pas la prière, donc il n'est pas musulman. Ça ne marche pas. Parce que ton père ne veut pas. Non. Tu pries Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu vas bientôt te marier, j'espère, inch'Allah, qu'il est d'accord. Si tu es reconverti, ben, tu as un tuteur tout trouvé, c'est l'imam. Si tu en trouves, celui que tu considères comme un imam. Hein. Il ne s'agit pas forcément de l'imam X, tu n'as pas besoin d'imam. Non. On est devenu comme d'autres. On pense que l'imam est plus proche d'Allah. Allah seul sait. Ne demande pas à l'imam. Ne regarde pas son cahier. Allah seul sait ce qu'il y a dans son cahier. Voilà. Donc, non. Il faut simplement quelqu'un qui connaisse sa religion, qui sache quelles sont les conditions de validité du mariage ou pas. Une condition qui est obligatoire mais qui n'est pas de validité, c'est la dot. C'est-à-dire qu'on doit, tu dois, ton mari doit te donner, parce que s'il consomme le mariage, ça deviendra une dette. Et on te donnera, s'il n'y a jamais un divorce, pour votre bien, Allah ne fait que le meilleur. Si ça arrive, il doit te payer quand même la dot de l'équivalent de l'équivalent d'une femme de ton rang, entre guillemets. C'est comme ça qu'ils définissent dans les pays musulmans. Bref, c'est le qadi, normalement, le juge qui doit le fixer. Mais c'est ton droit, même si ce n'est pas une condition de validité. Et ensuite, il demande ta main à ton tuteur ou à toi-même, et tu acceptes, et ton tuteur est d'accord, et on demande à Allah de venir le mariage, c'est tout. Mais il faut au moins deux témoins. Donc des gens, quand on dit témoin, c'est au moins des gens qui font la prière. N'est pas témoin devant Allah des gens qui font pas la prière. Même s'ils sont saints, ça marche pas. La différence entre l'homme et la mécréance, c'est l'abandon de la prière. Et il n'est pas témoin, celui qui ne fait pas la prière. C'est la première chose sur laquelle les gens seront interrogés, qu'Allah nous fasse rentrer au paradis, ça nous interroge. Mais la prière, encore la prière. Donc il faut au moins ça. On demande ta main, tu es d'accord? On ne peut pas te marier contre ton gré. Visiblement non, parce que tu es content d'être marié. Donc si tu veux de cet homme, ça t'est permis. Et là, on n'a pas besoin d'imam. Alhamdoulilah, ceux qui les font venir, c'est parce que parfois on pense que c'est pratique, on leur donne 10 euros ou je ne sais quoi d'autre. Non, ce n'est pas ça. Il faut ces conditions-là et ton mariage sera valable, inch'Allah, et qu'Allah bénisse ton couple. Quel juste milieu avoir lorsqu'une mère nous menace de ne pas nous pardonner si nous rentrons en contact avec notre père. Cela fait des ans, ou 10 ans, ou 20 ans que ce dernier est parti et que la mère vit seule avec les enfants. Le dernier, il est parti. Allah seul sait pourquoi il est parti. Qu'Allah le guide, s'il l'a fait, s'il a fui ses responsabilités, peut-être qu'il ne pouvait pas non plus rester. Ta mère va te dire, oui, il est parti, vous a abandonné, il reste ton père. Tu ne cours aucun risque devant Allah, en tout cas, en cherchant à reconnaître ton père. Ton père reste ton père. S'il a fait ce qu'il a fait, qu'Allah lui pardonne. Prie pour lui. Ta mère n'a pas à refuser que tu prennes contact avec ton père, aussi indigne qu'elle puisse penser. C'est Allah qui va juger ton père, c'est Allah qui va juger ta mère. Je conseille à aucune femme d'éloigner, même après un divorce, même conflictuel, de leur père. Allah a voulu qu'on naisse de père et de mère. Le père a des droits, elle est construite entre la caisse. La mère a des droits. Donc ne lui obéis pas. Bien sûr, tu ne vas pas lui dire, tiens, tiens, papa te passe le salam. Non, là, tu l'as provoqué. Elle va avoir une crise cardiaque, elle va te maudire. Non, mais tu as le droit de prendre contact avec lui, tu lui dis rien, si elle ne veut pas entendre parler de lui. Tu lui dis rien, mais même si elle te maudit, inch'Allah, la malédiction ne va pas t'atteindre. Parce que le lien de parenté est sacré. Allah l'a rendu sacré, et ce n'est pas elle qui va le couper parce qu'elle ne s'est pas occupée. Je rencontre beaucoup de cas de personnes qui disent, non, non, mais moi, mon père, non, je ne veux pas qu'il soit mon tuteur. Pourquoi? Parce qu'il nous a abandonnés. Ce n'est pas toi qui définis l'ordre, c'est Allah qui dit que ton père est ton tuteur. Tant qu'il est vivant musulman, il reste ton tuteur. Après, s'il le refuse, il dit non, 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 écoute, débrouille-toi avec ta mère, moi, ce n'est pas mon problème, tu passes au grand-père. S'il est déjà mort, qu'Allah lui fasse miséricorde, tu passes à ton frère. Si tu n'en as pas, passe à l'oncle, si tu n'en as pas, dans tous les cas, tu as le droit de te marier. Donc, personne ne peut t'empêcher, mais commence par ce par quoi Allah a commencé. Ton tuteur, c'est ton père. Et n'écoute pas ta mère pour ça. Prie pour elle, par contre, ne l'envoie pas promener. Nous sommes tous perturbés par les événements de vendredi. Dans quel état nous serons? Serons-nous lors de la venue de Dajjal? Mais c'est vrai, tu as raison. La foi, justement, les grandes épreuves, parmi les grandes épreuves avant la fin du monde, parmi les petites, c'est ça. C'est la mort, c'est le meurtre, plutôt, a dit le prophète sallam, qui va être généralisé. L'homme meurt, il ne sait même pas pourquoi il meurt. Tu sors, tu vas aller prendre un café, eh bien, pas de café, tu es mort. Tu sors, tu vas acheter du pain, comme à Paris. Je n'ai pas dit qu'ils étaient en train d'acheter du pain. Tu sors, tu ne sais même pas pourquoi tu meurs. L'homme tue son voisin, il ne sait même pas pourquoi. Et ça, c'est des petits signes. Quand les grands signes viendront, il y en a 10, on n'a pas le temps. La sœur qu'Allah la bénisse a parlé du Dajjal. Celui qui n'a pas une foi ferme, il va le suivre. Et ça, ce sont des petites épreuves. On est tous perdus. Notamment nos femmes et nos mères et nos sœurs qui vont être encore entre l'amalgame et l'islamophobie rampante. On va les traiter tous les noms. Tout le monde porte une ceinture virtuelle. Tu vas, je vais passer de magasin pour ne pas avoir des problèmes. Tu vas dans n'importe quel endroit, ils vont dire, ah, il y a un jilbab dessous, il y a peut-être une ceinture explosive. Voilà, voilà, voilà. À laquelle vaut mieux certainement que toi et tes acolytes. Donc, c'est une épreuve, il faut patienter. La foi est faite justement, les épreuves dans la vie sont faites pour ça, pour que Allah choisisse les meilleurs. Tu dis que tu es croyant, eh bien, tu vas être éprouvé. Si tu es croyant, tu vas être éprouvé. Si tu n'es pas croyant, alhamdoulilah, Allah va, au travers des épreuves, montrer à tout le monde que tu n'es pas croyant. Si pour un oui, pour un non, quand il y a eu Charlie, qui a été condamné par la mosquée, par tout un chacun, il y a des femmes qui ont abandonné. Il y a des femmes qui ont abandonné, qui ont enlevé le hijab. Il y en a d'autres qui ont même dit, je ne sais pas que les femmes, hein, les hommes n'en parlons pas. Ils étaient déjà éloignés. Ah, si c'est comme ça, je ne suis plus musulman. Qui a perdu? C'est une épreuve. Tu n'attendais que ça, toi, pour ne pas être musulman? Allah n'a pas besoin de toi. Si Allah mettait tout le monde dans l'enfer, ce serait en pure justice. Et sa miséricorde l'emporte pourtant sur son châtiment. Et donc, si tu n'es pas fier d'être musulman, c'est tant pis pour toi. Allah se passe de toi. Allah t'a honoré. Donc sois digne de cet honneur. Si tu ne veux pas être musulman, mais vas-y, on est en France. Tu fais ce que tu veux. Donc c'est une preuve. Et ceux qui ont été tués, et les familles qui sont en train de pleurer, qui n'ont même pas trouvé le corps de leur membre de leur famille. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Allah se passe de nous. Ce sont des épreuves qu'il a voulu, il n'a pas ordonné. Allah a voulu parce qu'il n'arrive que ce qu'Allah veut. Mais Allah a interdit l'injustice. Donc celui qui est injuste, il va le payer. Mais Allah a voulu qu'il y ait des épreuves, parmi lesquelles des épreuves très douloureuses. Et quand le Dajjal viendra, on prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir. Et certainement, tout le monde va le suivre, sauf les vrais croyants. Et ils ne seront probablement pas nombreux. Parfois dans la prière, on passe du coq à l'âne, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on se réunisse. Parfois, on se trompe pendant la prière, on rajoute, on oublie une raka'a. Comment le faire? Cela compensé, inch'Allah, je t'invite vendredi, pour, on n'est pas encore dans la prière, tu as encore le temps. Quand tu doutes, a dit le prophète sallam, tu ne connais pas le nombre de raka'a, tu penses que c'est trois ou quatre, tu te bases toujours sur le minimum, trois. Et tu fais une quatrième raka'a, comme ça tu es sûr d'avoir fini la prière. Et après le salam, tu fais deux soujouds. Mais bon, c'est juste très rapide. Et quand c'est quelqu'un, comme il y en a parmi nous, qui, lui, a toutes les prières, il ne sait pas. 3, 4, 3, 4, là, alaykoum salam, il se base sur ce qui est le plus grand. Comme ça, au moins, il ferme la porte à Shaitan. Donc, quand tu oublies, alhamdoulilah, quand tu te rappelles après ton salam que tu n'as fait que 3 rakats, tu te lèves, tu fais une quatrième et tu fais deux soujouds. Mais c'est assez compliqué de te l'expliquer. Quelle attitude doivent adopter les musulmans face aux événements d'avant-hier? Barakallahu fi, pour nous rappeler que dit l'islam concernant tels actes. C'est sur ça que je voulais insister, qu'Allah te bénisse. Le peu de temps qui reste, c'est qu'il est clair. Il est clair, les savants de la communauté, je ne dis pas ceux qui se prennent pour savants et qui ne le sont pas. Les savants de la communauté sont unanimes pour dire qu'on n'a pas le droit de faire des attentats. On n'a pas le droit de tuer des personnes innocentes. Ils sont unanimes, sauf ceux qui ne sont pas savants et qui le prétendent. Et alhamdoulilah, si Allah nous le permet, on fera tout un cours dessus. On a commencé hier déjà et on avait fini la fitna du takfir, ceux qui font sortir les gens de l'islam, qui se prennent pour ceux qui ne sont pas. Pourquoi? La première raison, c'est l'ignorance. Même s'ils connaissent des versets, ils ne savent pas l'explication des versets. Et donc l'attitude, on ne peut pas accepter. Le minimum, comme l'a dit le prophète sallam, c'est les d'entre vous qui voient un faible amable, qui le change de sa main, c'est-à-dire qu'il l'arrête. Si tu ne peux pas dans ce cas-là, au moins de sa langue, c'est ce qu'on essaie de faire, sinon du cœur. On n'a pas le droit d'accepter. Oui, il le mérite. Qu'est-ce que tu en sais? Allah est juste et Allah va compenser ce qu'il voudra par ce qu'il voudra et tu n'as pas le droit d'accepter parce que ce sont tes frères. Le prophète sallam, il a dit, c'est pour ton frère qui soit opprimé ou oppresseur. On dit, mais s'il est opprimé, je veux bien. Mais s'il est oppresseur, il dit, tu l'empêches d'opprimer. Même si c'est ton propre frère, tu l'empêches d'opprimer. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas contraindre qui que ce soit. Un innocent reste un innocent. Wallahi, je crains pour toi. Celui qui est mort en tuant quelqu'un, en pensant qu'il a raison, je crains pour toi. Je crains que ce soit un suicide de ce que les savants ils ont dit, digne de confiance. Et en plus, tu assures, tu n'as pas de conscience d'ailleurs, tu assures en tout cas ton livre, le péché, le sang d'innocent. Et ça, c'est quelque chose que l'islam n'accepte pas. N'en déplaise à ce que vous pouvez lire à gauche, à droite. Voilà. Je ne parle pas du suicide. Et donc, ça, c'est une attitude qu'il faut. Il faut être ferme. Ce n'est pas une question de, ah oui, mais c'est quand même des musulmans. Et alors? Justement, qu'est-ce qu'un musulman? C'est celui dont les gens n'ont à craindre ni les méfaits de sa mère, ni les méfaits de sa langue. C'est ça la définition qui a été donnée dans une version dont les musulmans n'ont pas. Dans l'autre, en général, les gens. Quand aujourd'hui on fuit nos quartiers parce qu'on est dans un quartier, il y a beaucoup de musulmans. Qu'est-ce qu'on ne fait pas aujourd'hui? Du bruit jusqu'à 3 h du matin. Personne n'est en sécurité. On quitte nos quartiers. Vous pensez que c'est bon signe pour nous? Le voisin, encore a dit le professeur Sallam. J'ai craint, Djibril, alayhi salam, a tellement insisté sur le voisin que j'ai craint qu'il l'inscrive parmi les héritiers. Une femme, on a venu voir le professeur Sallam, a dit, la femme, elle prie la nuit, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'entre nous. Elle jeûne le jour, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'entre nous. Mais ses voisins se plaignent d'elle. Le professeur m'a dit, elle ira en enfer. Elle prie la nuit, ce qui n'est pas ton cas. Toi, le jour déjà, si tu pries, c'est pas mal. Elle jeûne le jour. Et pourtant, elle ira en enfer. Pourquoi? Parce que ses voisins se plaignaient d'elle. Qu'est-ce qu'on va dire à Allah? Wallah, je ne sais pas. Moi, je vous demande une chose. Vivant ou mort, demander à Allah de me faire entrer au paradis sans me demander des comptes. Wallah, je ne sais pas ce que je vais dire à Allah. Je ne sais pas. Surtout aujourd'hui ici, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va dire à Allah? Si tu ne te poses pas cette question, à quoi ça t'a servi ta vie? Qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Et certainement, on va tous comparaître devant Allah. Donc, demande, cherchons, yani qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde et nous fasse rentrer sans nous demander des comptes. C'est une amana que je vous laisse. Demandez à Allah, si vous voulez vous lui rendre des comptes, demandez à ceux qui ne me demandent pas des comptes. Je suis sûr que je ne suis pas le seul. Derrière la porte, il y a beaucoup qui veulent ça. Non. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Qu'est-ce que tu veux, mon frère? On n'a que ce qu'on mérite. Ce sera mon dernier mot parce que c'est l'heure du Asr. On va s'arrêter là aujourd'hui, inch'Allah. On aura l'occasion, si Allah nous le permet, de revenir tant sur le djihad que sur d'autres choses, parce que malheureusement, c'est notre vie aujourd'hui qui est pourrie par un certain nombre de gens. On reviendra dessus, inch'Allah, quand Allah le voudra. Mais, en tout cas, sachez que la crainte d'Allah, sa miséricorde, certainement, c'est quand on va le rejoindre, avant de le rejoindre, qu'on doit y penser, mais c'est surtout la crainte d'Allah. Il est le majestueux, il est celui qui est juste, et il a interdit toute injustice. Donc, on va payer. Et on n'a que ce qu'on mérite. Qu'Allah nous fasse miséricorde. C'est ce qu'on lui demande, matin, midi et soir. On doit revenir à Allah repentant, profiter donc de ces trois fleuves avant qu'on ne passe, qu'Allah nous en préserve, dans le quatrième qui est l'enfer. Donc je vous remercie, Barakallahu fikoum, pour votre confiance, pour le temps qu'on a passé. Je remercie les sœurs qui l'ont organisé, les sœurs qui sont venues nous écouter. Et je félicite les frères qui ont amené beaucoup de gâteaux et je peux vous dire qu'ils sont bons. Pour ceux qui sont venus au début, hein, parce que ceux qui sont venus pour l'Asr, ils auront l'Asr, inch'Allah. Et s'ils sont sages, on va leur donner un peu de gâteau. Voilà, donc je les ai mis au défi hier en disant que les femmes sont généreuses. Alhamdulillah, les frères, ils ont été généreux, ils ont amené pas mal cette fois-ci. Donc je les encourage à rentrer en concurrence avec les sœurs pour les dépasser. Voilà, barakallahu fikoum. Et on se retrouvera, inch'Allah, quand Allah le voudra, subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين